comment la mémoire nous fait-elle revivre? La mémoire n'est pas seulement une faculté de conservation du passé, c'est évidemment aussi une faculté de reproduction du passé dans le présent, mais le décrire un peu comme ça, avec les termes du psychologue Théodule Ribot à la fin du 19e siècle, qui ont influencé tellement de philosophes, d'écrivains et de psychiatres ou de psychanalystes, c'est encore un peu abstrait, encore un peu théorique. En réalité, la mémoire ne nous fait pas seulement reproduire des contenus antérieurs dans une sorte de discours présent, comme quand nous cherchons un verbe que nous avons oublié dans notre langue ou une autre langue. La mémoire nous fait véritablement revivre le passé, c'est-à-dire non pas seulement le reproduire comme contenu, mais le répéter comme action, comme si nous étions encore au passé. Et ce revivre, alors, apprend souvent dans la langue française, dans ce sens-là, de ce mot-là, dans cet usage-là de la mémoire, a très souvent, malheureusement, un sens négatif. Bien sûr, revivre peut avoir le sens merveilleusement positif d'une renaissance, mais alors on a tendance à le déplacer et à le séparer de la mémoire, justement. Ce que la mémoire nous fait revivre, c'est plutôt les traumatismes du passé. On peut même dire, on peut définir comme traumatique un souvenir qu'on n'arrive pas à mettre à distance comme un contenu, dans un langage ou dans une histoire, dans un récit, à situer consciemment dans un passé révolu, mais un souvenir qui revient de façon à être rejoué, répété, comme s'il n'était encore présent, comme s'il nous avait marqué. Le signe alors de la force de ce revivre négatif, c'est le signe précisément du fait que la mémoire n'est pas seulement une faculté de connaissance, mais définit une dimension de notre vie. Or, qu'est-ce que la vie? La vie, c'est ce qui est capable non seulement de santé, mais de maladie, non seulement de positif, mais de négatif, non seulement de création, mais de destruction et peut-être de mort. Or, le revivre négatif est précisément l'une des dangers principaux de notre vie, ce qui prouve que nos images, notre esprit, est une faculté vitale parce que nous pouvons en souffrir. Nous pouvons être malades de revivre sans cesse le même passé, individuellement ou d'ailleurs collectivement, de telle sorte que le mot de Churchill, les sociétés qui n'étudient pas leur histoire sont condamnées à la revivre, nous fait encore trembler aujourd'hui. Ainsi, ce revivre-là doit-il être toujours repris lui-même? Et pourtant, dans la mémoire, il y a aussi la faculté du renouveau. Le renouveau n'est pas forcément coupé de la mémoire en tant que telle. Le renouveau n'est pas forcément seulement l'inédit. L'inédit qui, par opposition à la répétition traumatique, serait totalement distinct de la mémoire, apporterait son coefficient d'imprévisibilité totale, comme le disait Bergson en son temps, son coefficient justement de distinction absolue par rapport au passé que la mémoire serait vouée seulement à répéter ou à reproduire. En fait, le revivre permet aussi parfois de faire retour à des puissances, comme le disait souvent Paul Ricoeur, des puissances inutilisées du passé, des puissances enfouies et des principes aussi auxquels il ne faut pas renoncer. Faire revivre une idée noble quand elle est menacée, faire revivre un souvenir heureux car il peut revenir seulement si on le convoque, faire revenir un principe qui, d'une certaine façon, menace de disparaître, le relancer comme s'il était nouveau, comme si c'était de nouveau l'émancipation ou la liberté, comme si c'était de nouveau un facteur de surprise, en se libérant en effet de la répétition, mais sans se couper entièrement d'une histoire pour autant, sans être dans la nouveauté supposée absolue. Alors, ce revivre-là n'est pas indépendant de la mémoire, mais il en efface le côté destructeur, pathologique ou mortel, et la fait redevenir vitale.